France Inter, tête 10.
Mardi 6 février, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le roi Charles à l'écart de la vie publique.
L'annonce est tombée hier soir, il souffre d'un cancer, un choc au Royaume-Uni où la famille royale a toujours été très discrète sur l'état de santé des monarques. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a voté le report de 10 mois de l'élection présidentielle. Les enseignants français en grève contre les groupes de niveau au collège stigmatisant pour les élèves inefficaces pédagogiquement. Et puis la renaissance sportive de Sochaux qui reçoit Rennes en huitième de finale ce soir de la Coupe de France de football.
Et les invités d'Inter aujourd'hui à 7h50. Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour à tous. Les Français aiment travailler, ils en sont plutôt fiers même de leur travail. Mais les conditions de travail se dégradent en France et moins on reconnaît la souffrance au travail, plus les Français se tournent vers le Rassemblement National. De ces constats statistiques, François Ruffin, député de la Somme, tire un livre consacré au mal travail. Il sera à mon micro à 7h50.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le spécialiste du Moyen-Orient, Jean-Pierre Filu, pour son livre « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné ». C'est aux éditions du Seuil. À 9h20, Léa Salamé reçoit l'écrivaine Stéphanie Pollack.
France Inter.
En moins d'un an et demi sur le trône d'Angleterre, il en aura plus dit sur son état de santé que sa mère en 70 ans de règne. Le roi Charles III est atteint d'une forme de cancer, les mots du communiqué de Buckingham Palace publié hier soir. Le mois dernier, le roi avait déjà communiqué sur son opération bénigne de la prostate, levant le tabou de la santé des monarques afin d'encourager les Britanniques à se faire dépister. Et voilà maintenant qu'il partage son diagnostic, dit encore le communiqué, pour aider le public à mieux comprendre tous ceux qui sont touchés par le cancer dans le monde entier. L'annonce en tout cas a surpris tout le Royaume-Uni, comme l'a constaté Richard Place, qui a poussé la porte du King's Head, un pub londonien.
Francis trinque de bon cœur avec deux amis. Coincés dans un angle autour d'une petite table, les trois hommes ne parlent pas de foot pour une fois. Depuis qu'ils sont arrivés, un seul sujet de discussion, la maladie du roi.
Pour être honnête avec vous, j'ai failli ne pas venir ce soir. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a mis un coup au moral. Tout ce qui arrive à la famille royale, ça me touche. Ils font partie de nos vies. Ils sont sans doute tristes et c'est important pour nous aussi.
Au bar, James est venu commander. En attendant sa pinte, il veut bien parler du cancer de Charles III. Ils en ont discuté rapidement à sa table, mais sans grande inquiétude.
Je suis assez confiant. Il est entouré par ses proches et par nous, les Britanniques. Il va recevoir les meilleurs soins possibles dans ce pays.
Curieux, Alan s'approche. Lui aussi veut parler du roi et de son cancer, plus précisément de son traitement. Il travaille pour le NHS, le service de santé publique. Et dès ses premiers mots, on comprend qu'il ne soutient pas la monarchie.
Combien de millions de livres sterling va-t-il encore nous coûter? Les autres malades du cancer n'auront pas une telle attention, justement parce que nos hôpitaux manquent d'argent et sont dans une situation très très difficile.
Mais il tient à conclure en souhaitant un prompt rétablissement à Charles III. Londres, Richard Place, France Inter.
Charles III a entamé des traitements. Il se tient désormais à l'écart de la vie publique pour une durée inconnue, ce qui plonge la monarchie britannique évidemment dans l'incertitude. Incertitude aussi au Sénégal et surtout grande confusion dans le pays qui s'enfonce dans la crise politique. Îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Mais dans la soirée hier, l'Assemblée nationale a voté le report de l'élection présidentielle prévue dans moins de 3 semaines. Décision à la quasi-unanimité après l'évacuation Manu Militari, des députés d'opposition, les précisions à Dakar de Théa Olivier.
Après une journée de débats houleux, les députés de l'opposition ont finalement été évacués de l'hémicycle par les gendarmes en milieu de soirée, soit juste avant le vote de la loi qui s'est fait sans eux. Guy Marius Sagna, parlementaire du parti dissous le PASTEF, est scandalisé du report de l'élection au 15 décembre, soit 10 mois après la date prévue. Il s'oppose aussi à la disposition qui permet désormais au président sortant de garder ses fonctions jusqu'à l'arrivée de son successeur.
C'est un jour donc de deuil pour la démocratie, pour les libertés, pour la Constitution qui dit clairement que l'Assemblée nationale ne peut pas prolonger le mandat du président de la République ni reporter l'élection présidentielle au Sénégal. C'est pourquoi nous parlons de putsch constitutionnel, de coup d'État constitutionnel.
Mais du côté du pouvoir, Abdoumbo, à la tête du groupe parlementaire de la coalition présidentielle, se veut rassurant.
C'est une séquence temporelle qui disparaîtra le lendemain de l'élection présidentielle du 15 décembre 2024 parce que aussi on a voulu ne pas sortir de l'année électorale pour que les gens comprennent que c'est des questions de temps pour organiser une élection transparente, libre, démocratique et inclusive.
Aïb Dafé, un autre député de l'opposition, a déjà annoncé qu'un recours sera déposé devant le Conseil constitutionnel contre cette proposition de loi. À Dakar, Théa Olivier, France Inter.
En bref, encore à l'étranger, les événements météo extrêmes se déchaînent sur le continent américain. Tempête de neige historique au Canada, un mètre tombé en quelques heures dans l'est du pays. L'armée est appelée à l'aide pour déblayer maisons ensevelies et routes coupées. En Californie, les trombes d'eau et les rafales de vent ont fait au moins 3 morts. Et puis le Chili fait toujours face à des incendies dévastateurs. Deuxième jour de deuil national. 123 morts, des centaines de disparus. Nous serons sur place à 8h.
Il est 7h06, les Insoumis seront présents demain, Anaïs, à l'hommage républicain aux victimes du Hamas.
Et cela fait débat jusqu'au sein du gouvernement. La porte-parole de l'exécutif avait même estimé ces derniers jours que la décence voudrait qu'ils ne s'y rendent pas à cause du communiqué insoumis après l'attaque terroriste qualifiant le Hamas de mouvement de résistance. Mais l'Élysée assume une cérémonie républicaine. Protocole en vigueur depuis 1989, tous les parlementaires sont invités à cette cérémonie en hommage aux 42 Français assassinés le 7 octobre. Ceux qui ont été blessés, pris en otage ou disparus, Laurence Perron.
Le président Renaissance du groupe d'amitié France-Israël, Mathieu Lefèvre, s'est rendu avec la présidente de l'Assemblée nationale sur les lieux du massacre. Il déplore la venue de députés LFI.
Quand on est incapable de qualifier le Hamas de groupe terroriste et quand on le qualifie de force de résistance, on devrait avoir la décence de ne pas y aller. C'est une insulte à la mémoire des victimes.
Dignité et recueillement, intime à l'inverse, le député insoumis Alexis Corbière.
Ça a d'autant plus de force que toutes les familles politiques françaises se retrouvent ce jour-là. Après, il y a des gens qui souffrent, qui disent des choses, je respecte, j'ai pas du tout envie de rentrer avec eux dans des mots qui pourraient être douloureux de toute manière. Par contre, que la porte-parole du gouvernement, qui disent un tel y vient pas, les insoumis pas, ça c'est pas beau, c'est pas bien, faut pas faire ça.
Emmanuel Pellerin, élu Renaissance des Hauts-de-Seine, y voit une forme de réparation.
Je comprends parfaitement que certaines personnes le voient mal. En revanche, on ne peut pas interdire à des députés, de quelque bord qu'ils soient, de venir faire un hommage. J'y vois plutôt une reconnaissance de leur part d'une erreur.
L'invitation a été faite selon le protocole républicain. Le président de la République a convié tous les présidents des groupes parlementaires, ainsi que les députés parisiens. La députée LFI Danielle Obono, qui a participé à la rédaction du communiqué suite aux attaques du Hamas, est ainsi sur la liste.
Le principe d'un temps mémoriel est par ailleurs envisagé par l'Élysée pour les Français morts dans les bombardements israéliens à Gaza. Plus de 27 000 morts selon le Hamas, pas de bilan officiel des victimes françaises. Lui, passé à l'acte 6 jours après le massacre du Hamas, l'ancien élève du lycée d'Arras a reconnu lors de ses interrogatoires avoir ciblé intentionnellement son ex-professeur de français Dominique Bernard pour tout ce qu'il représentait, l'amour, l'attachement à la République, la transmission de la démocratie et des droits de l'homme, précision dans une demi-heure. Les enseignants qui entament aujourd'hui une nouvelle journée de grève, surtout dans le secondaire, contre le fameux choc des savoirs annoncé par Gabriel Attal lors de son éphémère passage au ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire des groupes de niveau au collège, en 6e et en 5e, en français et en mathématiques. Ni la hiérarchie des chefs d'établissement aux inspecteurs, ni les enseignants n'en veulent. Ce sont des mesures qui heurtent leurs valeurs, disent-ils à l'image de cette professeure d'anglais de ce collège près de Caen.
La première chose, c'est que scientifiquement, il y a des études qui ont montré que les élèves faibles, s'ils restaient ensemble, ça ne les élevait pas et qu'on n'allait pas avoir un niveau meilleur en laissant tous les élèves faibles toujours ensemble. C'est hyper stigmatisant quand on va aller chercher nos élèves dans la cour en disant voilà, on va prendre le groupe des faibles, le groupe des moyens, le groupe des bons. Il faut s'imaginer à la place de l'élève faible qui va partir avec son prof et toute la cour va le regarder en disant bah oui, toi t'es dans le niveau faible. Et la deuxième chose, c'est que le gouvernement prétend que les élèves vont pouvoir progresser plus vite et pourquoi pas passer d'un niveau à un autre. Donc ça c'est la théorie, sauf que sur le terrain, nous on a vu nos heures et il ne va pas être possible pour les élèves de passer d'un niveau à un autre. Donc ça veut dire que l'élève qui sera catalogué comme élève faible en début d'année restera toute l'année dans ce groupe faible. Et ben c'est pas comme ça qu'on fait progresser les élèves, c'est pas comme ça qu'on nous a appris, en tout cas nous enseignants, à faire progresser les élèves.
Bénédicte Le Cerf, professeur au collège d'Argence, avec Philippe Thomas, France Bleu Normandie. Quand 3 syndicats appellent à cesser le travail, une manifestation est prévue en début d'après-midi à Paris au départ de la place de la Sorbonne. 12% des contrats signés entre industriels et distributeurs ne respectent pas la loi Egalim. Le ministre de l'économie dit avoir envoyé des injonctions pour faire respecter la juste rémunération des agriculteurs. Des contrôles sur l'origine française des produits ont également été lancés. Alors que de leur côté, les agriculteurs bio se mobilisent demain pour dénoncer la suspension du plan Ecophyto. Ils estiment que l'agriculture bio est abandonnée par le gouvernement et la grande laissée pour compte de la négociation.
7h10, un monde complètement complètement faux, mais qui peut rapporter gros.
Plongé ce matin dans les réseaux sociaux gangrénés par le fake, dans une époque où la popularité se mesure au nombre d'abonnés et où le marché des influenceurs explose, il n'a jamais été aussi facile de s'acheter de faux abonnés par milliers ou par millions pour une bouchée de pain. Adrien Serrière, les plateformes luttent contre ce phénomène, mais rien ne semble pouvoir arrêter la multiplication des faux comptes.
Sur le site supremeboost.com, les 10 000 abonnés ne valent que 50 euros. Un investissement facile pour tenter de passer un cap de popularité quand on est rappeur, comédien, modèle ou encore ex-candidat de télé-réalité.
Ce sont des personnes qui vont, avant toute chose, vouloir tenter d'émerger.
L'expert de la culture internet, Axel Bossard, alias Tazio, observe ce phénomène depuis plusieurs années.
L'utilité, elle est multiple. Déjà, il y en a une première qui est de rassurer, on va dire, déjà les gens pour s'abonner à ton profil, parce que quand tu vas avoir 100 000 abonnés, tu lui diras peut-être que je manque du contenu qui est cool et du coup, bah, tu vas t'abonner à son compte.
Et bien sûr, cela va permettre de capter l'attention des marques en vue de partenariats rémunérés. Pour éviter de se faire piéger, celle-ci s'équipe d'outils qui repèrent les faux abonnés, comme le logiciel Hype Auditor, pour lequel Indelbeer est chargé de relations influenceurs.
On a énormément de marques, petites à grandes, qui viennent suite à des collaborations qui n'ont pas été très performantes. D'ailleurs, quand les marques arrivent vers nous, on va analyser tous les influenceurs avec lesquels ils ont collaboré pour essayer de comprendre si le problème vient des fake followers.
Mais estimer de manière précise le nombre de faux abonnés d'un profil reste impossible et selon les estimations, près de la moitié des comptes sur Instagram seraient en réalité des faux.
Le piège des faux abonnés, c'est aussi à lire sur franceinter.fr. Enfin, le début ce soir des huitièmes de finale de la Coupe de France de football avec la renaissance fragile d'un club mythique de l'histoire du ballon rond, Sochaux, reçoit Rennes. Au bord de la faillite l'été dernier, le club franc-comtois va tenter un nouvel exploit, éliminer un pensionnaire de Ligue 1 après Lorient et Reims. Le football club Sochaux-Montbéliard, actuellement en National 3e division, jouera à guichet fermé, le stade Bonal à nouveau plein. 20 000 spectateurs qui croient au conte de fées, Jean-Pierre Blimeau.
Aux abords du stade, Ibrahim, écharpe jaune et bleue autour du cou, attend ce nouveau match de coupe avec impatience et il veut crier haut et fort.
Ce soir est vivant encore. Allez, Sochaux.
Au moment de la victoire contre Reims en 16e de finale, le stade Bonal, chauffé à blanc, a chaviré dans le délire. Moins de 6 mois après le sauvetage du club, certains spectateurs ont même pleuré, comme Griselidis qui encourage le FC Sochaux depuis 1988.
Contre Reims, j'ai versé une petite larme parce que l'ambiance m'a emmené, quoi. Et en fait, tout ce qui s'est passé nous a touchés même intimement dans nos vies. Je ne sais pas comment vous dire.
Et comme Sochaux réussit mieux qu'espéré en championnat, la Coupe de France, c'est la cerise sur le gâteau, se réjouit Fabrice Lefebvre, président du site Planète Sochaux.
Pouvoir profiter de ces moments-là après avoir frôlé la mort d'aussi près, on savoure énormément.
Dans l'agglomération, on ne voit pas beaucoup de commerces arborer les couleurs jaune et bleu. Mais à Montbéliard, Georges, patron du Café de la Paix, soutient les Sochaliens.
Une équipe qui marche bien, c'est super pour nous, surtout pour le commerce. Il faut qu'on réussisse. Montrer aux autres qu'on a remonté la pente et qu'on a réussi.
Attention, préviennent certains joueurs comme le milieu de terrain, Rolly Pereira.
Il ne faut pas oublier d'où on vient aussi. On vient de très loin.
Mais ce soir, toute la Franche-Comté aura de nouveau un cœur de lion.
Coup d'envoi ce soir à 20h45.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le zoom. Un an après le séisme en Turquie, Istanbul se prépare au Big One.